Nos Bibles comportent 5 textes attribués à l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, comme il se désignait lui-même. Le premier, c'est, comme vous le savez, l'Évangile selon Jean. Ah oui, tu as raison. Très différent des 3 évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, car il ne rapporte que quelques épisodes de la vie et des actes de Jésus et de nombreux discours que pour la plupart on ne trouve pas justement dans les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. On a l'impression que Jean a écrit son évangile au moins en partie pour combler les trous laissés par les synoptiques. De plus, les spécialistes datent la rédaction de cet évangile autour de 85 après Jésus-Christ, donc nettement plus tard que les synoptiques. On a ensuite 3 lettres ou épîtres de Jean, la première étant assez conséquente, 5 chapitres, mais curieusement sans mention ni de l'auteur ni des destinataires, mais les pères de l'Église ont très rapidement attribué cette lettre à l'apôtre Jean. La seconde et la troisième épître sont beaucoup plus brèves, quelques versets seulement. Là, il se présente comme l'ancien, mais toujours sans donner son nom, mais les destinataires, eux, sont mentionnés. Dans la deuxième épître, il écrit à la dame élue. Bon, on a pensé que c'était probablement une église d'Asie. Et la troisième, c'est son ami Gaius, auquel il envoie un courrier. Et puis, bien sûr, le cinquième texte, c'est l'Apocalypse de Jean, où là, Jean se présente clairement comme l'auteur d'une lettre adressée de la part de Jésus-Christ à 7 églises de la province romaine d'Asie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au premier chapitre et un tout petit peu du deuxième de la première épître de Jean. Les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'une lettre circulaire qui était destinée à être lue dans les églises d'Asie probablement. Puisque Jean, comme vous le savez, a écrit cette lettre depuis Éphèse où il a séjourné longtemps. Sur sa vieillesse. Donc prenons la première lettre de Jean, première épître de Jean, au premier chapitre. Je vais lire les 4 premiers versets. Je lis dans la version dite du semeur. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. La première partie de ce culte a été beaucoup axée sur la joie d'être dans la présence de Dieu. Et on va voir que c'est justement une des préoccupations de l'apôtre Jean. Donc ces 4 premiers versets, on a une introduction dans laquelle Jean expose le but de sa lettre. Il l'a dit clairement, hein, au verset 4, que la joie qui est la sienne et celle de ses lecteurs ou auditeurs soit complète. D'ailleurs, la Bible du Semeur a traduit notre joie. Hein. Si nous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Peut-être dans certaines de vos Bibles, vous avez votre joie. Bon, c'est une question de traduction et une question de manuscrit. En fait, il semble que la critique textuelle soit tout à fait en faveur de la version « notre joie ». L'apôtre Jean parle de notre joie, donc non seulement celle des gens à qui il écrit, mais la sienne propre et celle de ceux qui l'entourent. Et c'est donc une question de communion, en fait. Et d'ailleurs, il dit au verset 3, « Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. » Et il précise aussitôt la dimension verticale de cette communion. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et vous avez noté au passage les termes par lesquels Jean affirme la véracité de son message. Ce que nous vous annonçons, ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire le projet initial de Dieu avant toute altération induite par le péché. Ce commencement nous rappelle bien sûr celui du prologue de son évangile. Au commencement était le Logos ou la parole. C'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. On ne peut pas donner de témoignage plus fort. Et donc le but de cette lettre est que les chrétiens auxquels Jean et son équipe apostolique écrivent connaissent une pleine joie sur la base d'une parfaite communion horizontale entre eux et verticale avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et Jean développe ensuite dans cette lettre comment cette joie et cette communion peuvent être réalisées. Et le premier message que Jean et les apôtres ont entendu de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. C'est le verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Jean s'adresse à des chrétiens d'origine juive et surtout païenne, qui vivent dans un monde où l'adoration des idoles est la règle, sans compter le culte obligatoire qui était rendu à l'empereur. Ce contexte est rappelé d'ailleurs dans le dernier verset de sa lettre, si vous regardez au chapitre 5, le tout dernier verset, c'est le verset 21, il dit « Mes chers enfants, gardez-vous des idoles ». Alors, qu'est-ce que ça signifie que Dieu est lumière ? Je pense que ça signifie qu'il est à la fois totalement vrai et totalement saint. De nombreux passages le désignent comme le véritable, la vérité absolue qui caractérise son être même. Cela signifie que les divinités multiples du monde antique de l'époque n'étaient que mensonges. De plus, sa lumière est une lumière morale, c'est-à-dire une sainteté absolue, parfaite, contrastant avec les mœurs dépravées des dieux et des déesses de l'époque, hein, qui étaient connus pour être menteurs, fourbes, cruels, infidèles, etc., tels que les décrit la mythologie grecque ou romaine de cette époque. Jean affirme donc là la différence fondamentale de nature entre le Dieu de la Bible et les dieux fruits de l'imagination des hommes et aussi des démons qui se cachent derrière les idoles. Rappelez-vous ce qu'avait dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10, verset 20. « Je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. » Et Jean précise, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Pas même la plus petite parcelle de mal. Et c'est avec ce Dieu-là que nous sommes censés être en communion. Alors Jean tire la première conséquence, c'est le verset 6. Sinon, si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Le texte original utilise le verbe marcher tout en marchant dans les ténèbres. Et je trouve que l'expression est très bien traduite par la Bible du Semeur, tout en vivant dans les ténèbres. C'est ça que ça veut dire. Il s'agit d'un mode de vie, d'un comportement habituel, pas le résultat d'un accident. On voit donc là qu'il y a une incompatibilité profonde entre ce que l'on professe et ce que l'on vit en réalité, et que la prétention de celui qui vit ainsi ne peut être que mensongère. Alors qu'est-ce que cela signifie pour un chrétien, marcher dans les ténèbres ? Car c'est bien à des chrétiens que Jean s'adresse. Il peut s'agir de ténèbres doctrinales ou morales, ou même des deux, et c'est souvent lié. Jean, à cette époque, avait déjà affaire à de faux docteurs, dont il parle plus précisément au chapitre 2, versets 18 et 19. On va lire ces deux versets. Chapitre 2 de sa lettre, versets 18 et 19. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Les théologiens pensent qu'il s'agissait d'une forme naissante du gnosticisme appelée le docétisme. Des mots bien compliqués. Ce mot docétisme vient du grec dokeo qui veut dire sembler. Selon eux, Jésus a seulement semblé être un homme. Car Dieu ne peut pas, selon eux, prendre un corps qui représente, toujours selon eux, la partie mauvaise de l'homme. Voilà, c'était ça la théorie des docètes. C'est donc clairement une hérésie concernant la doctrine du Christ. Parfaitement Dieu, existant de toute éternité, engendré du Père, et aussi pleinement homme depuis son incarnation, c'est-à-dire depuis sa naissance de la Vierge Marie. C'est justement le fait qu'il a pleinement revêtu notre humanité qui lui a permis de mourir à notre place pour nos péchés et d'apaiser ainsi la colère de Dieu. Alors, certains gnostiques, c'est une évolution du docétisme, prétendaient qu'on pouvait faire n'importe quoi de son corps, puisque de toute façon, il est foncièrement mauvais, et que la seule chose qui comptait, c'était la vie spirituelle. C'est ainsi que certains chrétiens, qui se laissaient contaminer par ces idées, marchaient dans les ténèbres, c'est-à-dire se permettaient de faire n'importe quoi, puisque les actions du corps n'avaient pas d'importance. Et des faux docteurs, des antichrists, enseignaient cette hérésie. L'apôtre Paul dénoncera le même péché chez les Corinthiens, et il doit leur rappeler en 1 Corinthiens 6, verset 13, « Notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite, il est pour le Seigneur. » On a donc là la dimension morale de l'expression « marcher dans les ténèbres ». Et on peut y mettre toutes les formes de péché qui sont condamnées par la transgression de la loi de Moïse. L'adultère, par exemple, est un péché dans lequel malheureusement il arrive qu'un chrétien tombe. Mais comme vous le savez, Jésus a amplifié encore la loi de Moïse en étendant la notion de transgression et donc de péché à l'intention même. Pour Jésus, celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. De même le meurtre. On n'a généralement pas trop de difficultés à respecter ce commandement-là. Mais Jésus dit que celui qui insulte son frère est un meurtrier. C'est-à-dire qu'on peut tuer avec des paroles méchantes. Si nous nous adonnons habituellement à ces formes de péché, nous marchons en réalité dans les ténèbres. Vivre dans l'adultère, par exemple, en ayant une liaison illicite avec une autre personne que son conjoint, et ne pas y mettre un terme dans la repentance, c'est marcher dans les ténèbres. S'adonner comme une véritable addiction à la pornographie est aussi une forme d'adultère. C'est aussi convoiter une autre personne, même virtuellement. Et on pourrait prendre bien d'autres exemples. Marcher dans les ténèbres, c'est donc ne pas nommer le péché que nous pratiquons comme tel, ne pas s'en repentir et persister dans ce péché. Et dans ce cas, nous ne pouvons pas prétendre être en communion avec Dieu ni avec nos frères et sœurs. Nous mentons à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Au verset 7 de notre lettre, Jean écrit « Mais si nous vivons dans la lumière tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Même si nous marchons régulièrement dans la lumière, nous restons des pécheurs, des pardonnés et graciés par la justice que Jésus nous a acquise au calvaire en versant son sang. nous sommes pardonnés de nos péchés passés avant notre conversion et aussi des fautes accidentelles dans lesquelles nous pouvons encore malheureusement tomber. Jean affirme donc que nous sommes purifiés de tout péché. Et d'ailleurs, il écrit dans le chapitre 13 de son évangile, « Celui qui s'est baigné, qui a été baptisé au nom de Jésus en témoignage public de sa conversion, est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds, image des souillures que nos faux pas accidentels peuvent nous faire contracter. » Et ainsi, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Verset 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Une fois, alors que nous étions en famille en vacances au Carreau, en Haute-Savoie, nous avons eu la visite de deux témoins de Jéhovah. Le plus jeune était manifestement le formateur de son collègue plus âgé, et c'est lui qui a engagé la conversation. Et dans le fil de la conversation, cet homme nous a affirmé que depuis qu'il était témoin de Jéhovah, il ne péchait plus. Bon, le verdict de Jean est clair. Une telle prétention est une illusion. Et notons que la principale hérésie des témoins de Jéhovah, c'est la négation que Jésus est non seulement le Fils de Dieu, mais lui-même Dieu, engendré du Père de toute éternité. Et Jean dénonce cette hérésie qui existait déjà de son temps, au chapitre 2, verset 22. Jean dit « Alors, qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est l'Antichrist, celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. » Les témoins de Jéhovah tordent les Écritures en disant qu'il faut comprendre cette expression de Fils de Dieu comme désignant une créature particulièrement élevée de Dieu, mais une créature seulement. On voit ainsi le lien que fait Jean entre une hérésie doctrinale et les conséquences morales que cela pouvait entraîner, du moins à son époque, le mépris du corps, considéré comme mauvais par nature, et donc le laxisme envers les actions pécheresses de ce corps, de toute façon méprisables et à leurs yeux sans conséquences. Je parle bien là de la moralité de certains gnostiques du IIe siècle et pas de celle des témoins de Jéhovah, qui sont, je crois, plutôt connus comme assez rigoureux sur le plan de la morale. Le verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est là le secret de la marche dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est reconnaître quand nous avons malheureusement péché. C'est-à-dire identifier notre faute comme telle et ne pas nous chercher des excuses. Se trouver des excuses est la tendance naturelle de la chair. Je ne sais pas vous, mais moi je l'expérimente immanquablement si je vais à pécher. Marcher dans la lumière, c'est reconnaître son péché, le regretter profondément et le confesser immédiatement. Et on a lu, il est fidèle et juste. Fidèle parce qu'il ne nous abandonne pas à notre misère. Il a promis de nous relever de nos chutes et il le fera toujours. Et juste parce que Jésus-Christ a payé le prix de notre pardon. Dieu voit l'application du sang de son bien-aimé Fils sur notre péché et sa colère est apaisée. Ce qui fait que nous sommes réellement purifiés et que nous continuons à marcher dans la lumière. Tomber, se repentir et confesser son péché, c'est être relevé et c'est marcher dans la lumière. Tomber et nier son péché, se trouver des excuses, ne pas prendre les mesures nécessaires pour sortir d'une situation pécheresse, c'est rester dans les ténèbres. Le verset 10, « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Ça donne un peu l'impression d'une répétition ce verset, hein ? Mais c'est une façon de s'exprimer typiquement juive, la pensée circulaire qui revient sur ce qui a déjà été dit en enfonçant encore un peu plus le clou. Là, celui qui prétend ne pas être pécheur fait de Dieu un menteur. Là, c'est le comble. Alors que Jean a affirmé que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Et il dit, sa parole n'est pas en nous. Dans la Bible du Semeur, les traducteurs ont mis un grand P au mot parole. Bon, Le mot dans l'original, c'est simplement le mot logos, qui peut désigner tout type de parole. Mais je pense que l'utilisation de la majuscule est tout à fait intentionnelle de la part des rédacteurs de la Bible du Semeur. Non seulement sa parole, c'est-à-dire sa pensée, ses commandements, n'est pas en nous, mais même celui qui est lui-même la parole incarnée, le logos qu'on trouve dans Jean 1, verset 1, au commencement était le logos, et la suite du prologue de l'évangile de Jean montre qu'il parle très clairement qu'il s'agit de Jésus-Christ. On pourrait donc ainsi comprendre, le logos, Jésus-Christ, n'est pas en nous. Une manière de dire qu'il n'y a aucune communion possible avec Dieu comme avec nos frères. Jean a parlé de cette habitation mystique de sa personne dans le croyant. Jésus a parlé de cette habitation mystique de sa personne dans le croyant, Jean 17, verset 22. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » On va continuer par deux versets du chapitre 2. Rassurez-vous, je n'irai pas plus loin. Je vous lis donc ces deux premiers versets du chapitre 2. « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Jean avait déjà donné au verset 4 de cette lettre, du premier chapitre, le motif de sa lettre, rappelez-vous, que notre joie soit complète. Là, il explique, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » C'est bien sûr la situation idéale. C'est marcher dans la lumière sans trace de ténèbres, et la conséquence en est une communion sans ombre, tant avec Dieu qu'avec nos frères et sœurs. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Au verset 7, Jean avait mentionné le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Là, il nous rappelle son rôle auprès du Père de défenseur, d'avocat, qui plaide notre cause lorsque nous sommes tombés. Et cet avocat, ce défenseur, c'est Jésus-Christ le juste. Juste parce que bien qu'ayant pris notre humanité, il est resté indemne de tout péché. Et, d'après le verset 2, il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Si on traduit l'original littéralement, il est l'expiation pour nos péchés, un terme technique qui désignait la victime offerte en sacrifice. Le verbe est au présent dans l'original, ce qui exprime donc une action continue. Il est toujours l'expiation pour nos péchés. Pour chacun de nos péchés, Dieu voit le sang de son Fils et sa colère est apaisée en toute justice. Et Jean ajoute, et pas seulement pour les nôtres, pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est la dimension universelle de l'efficacité du sacrifice de Christ. Christ n'a pas versé son sang seulement pour les péchés du peuple dont il est issu, sur la chair, les Juifs, mais pour ceux de tous les hommes. Alors que les Juifs désignaient couramment les non-Juifs comme des pécheurs, vous rappelez dans l'Écriture. Paul, en Romains 11, 32, écrit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. » Quelle merveille que la grâce de Dieu qui pardonne nos péchés si nous les lui confessons. Alors, mes sœurs et mes frères, j'ai une proposition à vous faire. Pourquoi ne déciderions-nous pas ensemble de nous efforcer de marcher toujours dans la lumière? D'abord, efforçons-nous de lui plaire en fuyant le péché. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement de tous côtés. » Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. C'est bien une épreuve, c'est bien un combat par lequel Dieu nous teste pour voir si nous le glorifierons en marchant dans la lumière. C'était l'objet du message de Pierre-Yves dimanche dernier. Il nous faut être conscients que le péché nous enveloppe ou nous cerne très facilement et de tous côtés. Débarrassons-nous de tout fardeau. C'est tout ce qui gêne notre marche dans la lumière. Il y a peut-être des mauvaises habitudes à perdre, des occasions de convoitise à abandonner, des ruptures indispensables avec une situation qui ne peut pas plaire à Dieu. Jacques 4, verset 7 dit « Résistez au diable et il s'enfuira de vous ». Cela signifie sortir de toute situation de péché dans laquelle nous nous sommes mis par imprudence ou négligence, voire même quelquefois volontairement. Cela ne peut nécessiter des ruptures douloureuses, mais absolument indispensables. Et si nous tombons, restons dans la lumière en nommant notre péché comme tel, sans nous chercher d'excuses, et confessons-le immédiatement en le regrettant profondément. Et nous voyons que c'est ici le secret de la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ et de la communion avec nos frères et sœurs. C'est aussi le secret de la joie parfaite que Jean voulait partager avec ses auditeurs et qui nous est proposée à nous aussi.